Bonjour, ici Hugo Prévost. Bienvenue à une série d'épisodes spéciaux de Pixels et Préjugés intitulée « Dans les coulisses de Gameloft ». Je vous propose de découvrir le travail d'employés de cette compagnie qui a récemment amorcé son virage vers les jeux sur PC et console. Ces épisodes sont commandités par Gameloft. Bonne écoute! Alexis Green-Pinchot, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à cet épisode spécial de Pixels et Préjugés.
Merci de me recevoir.
Et évidemment, on te parle parce que, bon, comme dans tous les autres épisodes spéciaux de cette série, tu es toi aussi à l'emploi de Gameloft, travaille chez Gameloft Montréal. Tu es le responsable des équipes de localisation, c'est bien ça?
Oui, exactement.
Pour les gens, bon, évidemment, moi, je connais un peu le domaine, l'industrie. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, qu'est-ce que c'est la localisation?
Dans le fond, la localisation, c'est la traduction, mais aussi d'adapter les textes pour s'assurer qu'ils sont bien pour chaque culture et chaque marché qu'on vise.
Parce qu'effectivement, c'est pas simplement de traduire. Ceux qui vont au cinéma régulièrement peuvent le voir. Là, des fois, des films en français de France... Nous, quand on voit ça au Québec, quand c'est pas un film français comme tel, ça peut être agaçant parce que il y a des référents culturels qui sont pas là. Donc, c'est la même chose partout dans le monde.
Oui, exactement. Chaque pays, il y a des petites particularités ou des petites différences. Puis, on s'assure de bien adapter nos textes pour qu'ils soient bien ajustés pour tous nos marchés cibles.
Justement, parlant de marché cible, bon, on peut se douter, Gameloft fait des jeux en français, en anglais. Clairement, il y a des marchés, bon, on vise le marché asiatique, entre autres, le marché sud-américain, européen. Peux-tu nous donner un aperçu? Je pense que c'est 15 langues, là. Vous travaillez dans 15 langues différentes, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. En général, les langues plus core, comme qu'on peut dire, c'est anglais, français, italien, espagnol, allemand et japonais. Ensuite, on est aussi présent en Chine, en Corée, en Turquie, en Thaïlande, en Russie, ça dépend aussi des demandes spécifiques pour des projets, mais dans le fond, on peut traduire n'importe quel jeu dans n'importe quelle langue.
Et toi, est-ce que ça veut dire que tu peux parler russe, espagnol, anglais, cantonais? Comment ça marche?
Malheureusement pas. Je ne parle que l'anglais et le français, mais j'ai une équipe d'experts pour toutes les langues qu'on supporte. Donc, vraiment, quand on traduit, on a des natifs pour ces pays, ces régions-là qui adaptent le jeu en conséquence.
Et quand on parle de traduction, c'est pas seulement les dialogues, c'est d'autres choses aussi. Il y a tout un espèce de microcosme dont il faut s'assurer de la qualité, là.
Oui, on va bien traduire les textes, mais en général, ça se passe dans des fichiers de Excel à PO ou à JSON. Mais ensuite, on va s'assurer que tous les textes sont bien intégrés dans le jeu. Donc, nos traducteurs vont jouer pour s'assurer que tout marche bien en contexte et que tout paraît correctement, parce que dans chaque langue, il y a des différences, des accents. Donc, on veut bien vérifier que le produit final est parfait.
Et bon, tu mentionnais, les jeux produits de Gameloft sont traduits dans de nombreux pays pour de nombreux marchés. Ça veut dire combien de gens à peu près au total qui travaillent avec toi?
Nous avons à peu près 80 personnes qui travaillent avec nous autres régulièrement. Mm-hmm. Il y a une équipe d'à peu près 50 à Montréal, puis trentaine d'autres de freelance et d'employés dans d'autres studios. Et des fois, pour des plus gros projets, nous faisons aussi affaire avec des agences ou des équipes élargies avec plus de traducteurs selon le compte de mots.
Et bon, évidemment, il y a eu ce virage des jeux mobiles vers les jeux PC console avec Disney Dreamlight Valley. Qu'est-ce que ça a changé, toi, dans ton travail de cette transformation-là?
La première chose, c'est que Disney Dreamlight Valley est beaucoup plus gros que les jeux mobiles en général. Donc, les jeux mobiles peuvent être aussi petits que 10-20 000 mots. Dans le cas de Disney Dreamlight Valley, on parle d'un jeu qui est de... En ce moment, 5 millions de mots. Donc, ça nous a pris beaucoup plus de temps et de ressources. Aussi, il faut s'assurer que tous les textes sont bien adaptés pour chaque terminologie. Donc, Sony, Xbox, PC, etc., ils vont tout avoir des terminologies spécifiques qu'il faut suivre. Ça nous a pris beaucoup plus de temps à tester et à traduire dans l'ensemble. Et c'est beaucoup plus de travail qu'un jeu mobile en général.
Et là, bon, on parle de Disney, donc j'imagine qu'il a fallu se concentrer sur l'univers de Disney. Est-ce que tu es obligé d'écouter La Reine des Neiges en boucle pendant des semaines ou qu'est-ce que...
Non. Par contre, nous avons accès à des comptes Disney+, et des comptes Disney+, selon les pays. Exemple, Disney+, au Canada, c'est pas le même Disney+, au Japon. Donc, on consulte parfois, mais Disney nous aide aussi, nous donne accès à des bases de terminologie pour s'assurer qu'on utilise les bons noms de personnages et de places à travers tous les jeux de Disney.
Et sur le plan un peu plus technique, là, bon, comment une journée typique, par exemple, quelqu'un qui travaille avec toi, est-ce que ça commence en arrivant, voici une liste, il faut que tu passes à travers tous les textes, par exemple, du deuxième chapitre, là, tu as une liste, de longues listes à traduire, ou c'est plus développé que ça, comme structure de travail?
Bien, on a des équipes de plusieurs personnes, donc... ils vont partager les tâches. Il va y avoir des journées où est-ce que, comme j'ai dit avant, les gros jeux, il faut passer beaucoup de temps à les tester. Fait qu'il y a peut-être certaines journées qui sont passées à retravailler ou à polir les textes. Sinon, un projet comme Disney, tu peux travailler dessus pendant quelques semaines à la fois, c'est pas des mois. Mais des petits jeux mobiles ou des petites requêtes en général, ça peut prendre 5 minutes. Donc, la journée est assez variée. Les traducteurs peuvent travailler sur de multiples projets ou un seul projet ou des tests. Et en général, on aime utiliser les forces de nos traducteurs. Donc, on laisse les équipes assigner selon leurs forces.
Et j'ai eu cette discussion-là quand j'ai parlé dans un autre épisode de la question de la conception sonore. Quand il est question de la traduction, à quel moment est-ce que toi ou quelqu'un de ton équipe va voir les développeurs en disant, ben écoutez, bonjour d'abord, faut qu'on on va travailler ensemble. Est-ce qu'il y a un moment précis ou est-ce que c'est plutôt au fil du développement, vous gardez le contact?
La localisation, c'est généralement quelque chose qui se passe plutôt vers la fin d'un projet. Donc, un projet comme Disney Dreamlight Valley va être en développement pendant quelques années, peut-être avant que la localisation commence à travailler dessus. Sinon, on a un excellent département audio à Montréal et on travaille directement avec eux pour les aider à traduire ou à vérifier des textes qui ont besoin d'être adaptés pour des usages audio.
Et il y a eu évidemment la pandémie. Bon, on peut dire que c'est largement terminé, mais bon, ça nous a quand même marqué pendant plusieurs années. Est-ce que ça a eu un impact sur la façon de travailler du côté des gens en localisation?
Dans le fond, la traduction, il y a beaucoup de traducteurs qui travaillent en freelance généralement. Je pense que c'est le cas pour la grande majorité du monde dans mon équipe qui ont déjà travaillé freelance à un certain point. Donc, pour nous autres, je pense que ça a été une des équipes les plus faciles à s'adapter quand la pandémie est arrivée. Donc, le monde était très habitué déjà de travailler de la maison. Donc, je dirais que ça s'est quand même très bien passé. C'est sûr que la pandémie, ça a pris un petit moment d'ajustement, mais en général, on était très, très rapide pour s'adapter à la nouvelle réalité.
Et ça fait, je pense, 20 ans que tu es chez Gameloft, c'est bien ça?
Oui, ça fait à peu près 20 ans que je suis chez Gameloft.
Et bon, évidemment, outre ce fameux virage, on en a beaucoup parlé, qu'est-ce qui a changé dans ta façon de travailler? Qu'est-ce qui a changé dans ton domaine en 20 ans?
Quand j'ai commencé chez Gameloft, les jeux étaient très petits et très simples. Dans le fond, les petits jeux sur les très vieux téléphones avant l'invention du iPhone. Fait que je pense qu'une des plus grosses choses qui s'est passée dans mes 20 ans, c'est vers 2007-2008, quand les smartphones, les téléphones intelligents sont arrivés et tout à coup, on avait beaucoup plus de possibilités dans nos jeux. Les téléphones étaient beaucoup plus puissants, donc les jeux pouvaient être beaucoup plus gros et donc pouvaient aussi avoir beaucoup plus de texte. Donc, à travers les 20 ans, je dirais, c'est surtout la technologie qui continue à changer et d'évoluer. Et nous autres, il faut qu'on s'assure d'évoluer avec ces nouvelles technologies et sorties-là.
Et parlant de technologie, bon, là, depuis quelques mois, ce qui est un peu sur toutes les lèvres, c'est les fameuses intelligences artificielles, surtout, bon, ChatGPT et les autres qui sont capables, semble-t-il, de produire une quantité astronomique de textes et de réponses très, très facilement. Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que tu as peur pour ton travail? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un bon accueil, au contraire, pour cette technologie-là?
Nous, on reçoit ça plus comme quelque chose qui va nous aider à l'avenir. Dans le fond, les outils de traduction à la machine existent depuis très longtemps, même avec l'aide d'intelligence artificielle. Google Translate, il y a 15 ans, était très différent de ce qui est disponible maintenant. Ensuite, on arrive juste à des niveaux de plus en plus sophistiqués de AI et de possibilités. Donc, ce que nous voulons faire, c'est d'intégrer ça, de voir ça comme un autre outil que nous pouvons utiliser pour augmenter la quantité de traductions qu'on produit. Donc, non, on voit ça plus comme une évolution intéressante et excitante dans le domaine de la traduction.
Et peut-être une question un peu personnelle. Tu disais, bon, tu gères des équipes un peu partout dans le monde. Ça veut dire beaucoup, beaucoup de fuseaux horaires différents. Comment tu gères ta journée?
En général, il y a toujours quelques heures qu'on va avoir un petit overlap avec les pays, les traducteurs qui sont les plus loin, soit que c'est en Chine ou en Australie. Mais c'est sûr que des fois, quand on a besoin d'avoir un Zoom pour discuter d'un projet en particulier, mettons, avec une équipe en Australie, il faut être flexible avec notre horaire. Mais dans le fond, ça fait en sorte que ma boîte de courriel et mes messages roulent 24 heures sur 7. Donc, il faut bien prendre quelques heures pour dormir.
Oui.
mais en général, on envoie certaines choses quand on finit de travailler. Puis pendant ce temps-là, il y a du monde qui continue à travailler dessus pour que quand on arrive le matin prochain, les projets ont continué d'avancer. Donc, dans le fond, ça fait en sorte que la traduction roule un peu 24 heures sur 7 selon qui travaille.
Oui, parce qu'effectivement, ce sont des équipes qui sont réparties un peu partout là, sur la planète. On n'est pas seulement concentré à Montréal pour gérer tout le reste. C'est un peu séparé en fonction des studios, effectivement.
Exactement.
Alexis Green-Pinchot, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à toi.
Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de la série « Dans les coulisses » de Gameloft. Au plaisir de vous retrouver prochainement pour de nouvelles rencontres. À bientôt.